Le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Des gilets jaunes aux mobilisations suscitées en France par la mort de George Floyd, l'exécutif peine à trouver la parade face aux accusations de mutisme et de déni sur les violences policières. Or voilà que le rapport 2019 de l'inspection générale de la police rendu public ce matin fait état d'un nombre inédit d'enquêtes disciplinaires menées en interne et dont plus de la moitié vise des accusations de violence des forces de l'ordre. Aux États-Unis, la police de Minneapolis, la ville où a été tué George Floyd, va-t-elle disparaître dans sa forme actuelle? C'est en tous les cas le vœu émis hier par 9 des 13 membres du conseil municipal. Nous nous rendrons également au Royaume-Uni où depuis ce matin toute personne arrivant de l'étranger doit observer une mise en quarantaine de 14 jours, toujours liée à cette épidémie de coronavirus. Mais en France, cette fois-ci, la question se pose à présent des différents scénarios possibles en vue de la rentrée des classes de septembre. Enfin, invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, le défenseur des droits Jacques Toubon. Même si les accusations de racisme au cœur de récentes mobilisations en France n'y sont pas répertoriées, voilà que le dernier rapport de l'inspection générale de la police nationale publié aujourd'hui fait état d'un nombre inédit d'enquêtes judiciaires confiées l'an dernier à la police des polices. 1460 au total, soit une hausse spectaculaire de 23,7% en un an, dont plus de la moitié vise des accusations de violence volontaire des forces de l'ordre. Alors bien évidemment, on imagine que la publication de ce rapport dans le sillage des récentes manifestations contre les violences policières devrait renforcer un peu plus encore la pression sur la place Beauvau. On se souvient qu'en janvier dernier, après la mort de Cédric Choufia, lors d'une interpellation, Emmanuel Macron avait déjà demandé au ministère de l'Intérieur de lui faire des propositions claires pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre. Quoi qu'il en soit, Margot Delpierre, quels sont donc les dysfonctionnements les plus notables qui apparaissent dans ce dernier rapport de l'IGPN ?
Oui, sur les 1460 enquêtes judiciaires confiées l'année dernière à la police des polices, plus de la moitié porte sur des violences volontaires, c'est 41% de plus qu'en 2018. Elles auraient eu lieu pendant des interventions ou des interpellations, dans des manifestations, pendant des contrôles d'identité ou contrôles routiers. Parfois, il s'agit aussi d'allégations de violences sur des personnes retenues. Si autant d'enquêtes ont été attribuées à l'IGPN l'an dernier, c'est selon l'inspection notamment à cause des nombreuses manifestations et des violences contre les forces de l'ordre, entraînant, je cite, des ripostes nombreuses et plus fermes. Le mouvement des Gilets jaunes a entraîné une sursollicitation de l'IGPN, selon le rapport, avec 310 dossiers l'an dernier. Depuis le début du mouvement, il y a environ un an et demi, près de 400 dossiers Gilets jaunes ont été attribués à l'IGPN. Aujourd'hui, une douzaine de policiers pourraient faire l'objet de poursuites judiciaires, selon la directrice de la police des polices. Mais restons prudents, c'est en somme le message de Brigitte Julien face à la hausse des enquêtes. Elle assure, je cite, « ces saisines de l'autorité judiciaire ne constituent pas une présomption de faute des agents ». Son rapport paraît en plein débat sur les violences policières et le racisme dans la police. Les accusations de racisme, justement, n'y sont pas répertoriées. D'après Brigitte Julien, lorsque des cas se présentent, ils sont traités rapidement par la hiérarchie locale. L'IGPN ne sanctionne pas, elle enquête, rappelle la directrice. Ce sont ensuite les magistrats qui condamnent ou pas.
Voilà, et je précise que dans une quinzaine de minutes, donc, nous reviendrons notamment sur cette crise de confiance liée à certaines pratiques illégales de la part des forces de l'ordre avec le défenseur des droits Jacques Toubon. Aux États-Unis, là-bas, l'affaire George Floyd aura elle aussi révélé les dysfonctionnements des forces de l'ordre au point que les appels à la réforme se font aujourd'hui toujours plus pressants. Ce lundi, plusieurs élus démocrates ont d'ailleurs prévu de s'attaquer à ce qu'ils estiment être le fruit d'un racisme qui gangrène l'histoire de leur pays en présentant devant le Congrès une loi pour réformer la police. À ce titre, précisons que depuis le début de ce mouvement de contestation, certaines mesures ont d'ores et déjà été imposées ou sont sur le point de l'être à l'échelon local. Cette fois-ci, c'est le cas à Seattle, New York, Los Angeles, autant de démarches qui auraient semblé totalement impensables il y a encore à peine deux semaines. La dernière en date concerne la ville de Minneapolis où George Floyd a été tué. Là-bas, une majorité des membres du conseil municipal se sont prononcés hier soir en faveur d'un démantèlement du département local de la police pour un nouveau modèle de sécurité publique. Alors en attendant de savoir si cette promesse ira ou non à son terme, les hommages à George Floyd se poursuivent à Minneapolis, comme hier soir, avec une nouvelle veillée pour les victimes de la police accusées de discrimination, d'injustice et de brutalité. C'est un reportage signé du correspondant de RFI pour France Culture, Eric De Salve.
Après la mort de George Floyd, deux étudiants de Minneapolis se demandaient comment réagir. Pour eux, manifester ne suffisait plus. Alors, ils ont décidé de transformer un parc derrière les lieux du drame en un cimetière symbolique, en hommage aux victimes de violences policières. En une journée, Anna et Connor ont planté dans la pelouse une centaine de stèles blanches en carton, avec sur chacune le nom d'un noir tué par la police. Pour Connor, c'est une façon d'atténuer sa culpabilité de blanc privilégié.
Ma mère n'a jamais eu à s'inquiéter que je sois tué un jour par la police. C'est pour ça que nous, les milléniums, et nous, les blancs, c'est à nous de dénoncer et combattre ce système d'oppression.
Ce soir-là, une veillée est organisée sur ce lieu de mémoire improvisée. Les noms des victimes de la police sont égrenés au mégaphone. Bougies à la main, beaucoup sont venus en famille pour tenter d'expliquer ces morts à leurs enfants, comme Libby, infirmière blanche de 35 ans, qui a peur qu'un jour le nom de sa fille métisse de 5 ans ne devienne celui d'une victime de la police.
Oui, j'ai peur, car la police va la regarder différemment, sauf si on change les choses. Un mois avant sa naissance, Eric Garner a été tué. Deux mois après, c'était Tammy Rice qui mourait. C'est donc dès son plus jeune âge que nous avons dû parler de cela avec elle.
Et pendant ce temps, une majorité d'élus de Minneapolis ont promis de démanteler leur police qu'ils accusent de racisme et jugent irréformable.
Alors effectivement, depuis la vague de colère donc suscitée par la mort de George Floyd et la révolte qui monte partout contre les forces de l'ordre, certains responsables locaux ont pris les devants. Et puis parallèlement, de plus en plus de voix discordantes se font entendre au sein même du parti républicain, après George W. Bush, mais aussi Mitt Romney ou bien encore la veuve du sénateur John McCain hier soir. C'était au tour de Colin Powell de sortir du bois pour exprimer ses critiques et déclarer publiquement qu'il ne voterait pas en faveur de Donald Trump en novembre prochain. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors pour l'ex-chef d'état-major des armées, lequel avait déjà voté en faveur d'Hillary Clinton lors de la dernière présidentielle, ça n'est pas franchement une surprise. Reste à savoir jusqu'à quel point ces failles sont-elles susceptibles donc de fissurer le bloc censé appuyer le locataire de la Maison-Blanche à l'approche de l'élection. Et si le cas échéant, Bertrand, Joe Biden pourrait en tirer profit?
Eh bien, vous savez que la prédiction en politique est souvent hasardeuse, surtout en ce qui concerne les élections aux États-Unis. Chacun a pu le remarquer lors du dernier scrutin présidentiel. Mais en effet, Thomas, la question se pose de savoir si Donald Trump ne va pas trop loin dans sa ligne clivante, très marquée à droite et peut-être trop, y compris aux yeux de son propre camp, même si l'ancien président George Bush, aurait décidé de lâcher Trump. C'est en tout cas ce qu'affirment des médias américains. Alors, bien sûr, l'ancien local de la Maison-Blanche n'est pas une référence pour tous les républicains, mais une prise de position officielle de sa part ne passerait pas inaperçue, et au sein du Parti conservateur, de plus en plus de voix dissonantes s'élèvent. Il faut également prendre en compte les critiques au lance-flammes de Jim Mattis, ex-ministre de la Défense de Donald Trump, accusant son ancien patron de vouloir diviser l'Amérique et ajoutant cette phrase assassine « Nous payons les conséquences de 3 années sans adulte aux commandes ». De même, plusieurs républicains se sont indignés de voir le président posait une Bible à la main devant une église emblématique de Washington dont la façade a été détériorée par des manifestants. Certains élus y ont vu une instrumentalisation de la religion. Quant à savoir si Joe Biden pourrait profiter de ces brèches apparues dans le bloc républicain, c'est encore une autre histoire. Le candidat démocrate a pourtant un atout, c'est sa ligne politique qui le rend envisageable pour une partie des modérés parmi les conservateurs. Il ne faut pas oublier pourtant qu'au-delà des manifestations antiracistes, très médiatisé et dénonçant les violences policières, il y a un électorat républicain silencieux qui partage largement les prises de position de Donald Trump, cet électorat qui lui a permis de remporter la présidentielle de 2016.
Merci Bertrand Galichet. Et puis toujours aux États-Unis, j'ajoute que le candidat démocrate Joe Biden a prévu de se rendre aujourd'hui à Houston pour y rencontrer la famille de George Floyd, dont les funérailles seront organisées demain. Quant au policier blanc Derek Chauvin, inculpé de meurtre pour avoir maintenu son genou contre la nuque de George Floyd, il doit comparaître ce lundi devant la justice. Des milliers de Brésiliens sont descendus dans la rue hier pour manifester pour ou contre le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, critiqué notamment pour sa gestion gestion de l'épidémie de coronavirus. Quand les uns demandaient la fin des restrictions, les autres arboraient des banderoles en défense de la démocratie et contre le racisme. Et puis à cela s'ajoute par ailleurs désormais une polémique nationale sur la diffusion des données comptabilisant le nombre de décès, de contaminations liées au Covid-19 ces dernières 24 heures. Hier soir, le ministère de la Santé a en effet publié deux séries différentes de chiffres sans préciser lequel des deux bilans était le bon. Pendant ce temps en Europe, la vie reprend peu à peu ses droits. L'Irlande a rouvert tous ses commerces ce matin, à l'exception des centres commerciaux. Au Danemark, les piscines et les salles de sport sont à nouveau ouvertes au public. En Espagne, là-bas, les matchs de la Liga reprendront mercredi après 3 mois d'interruption. En revanche, le Royaume-Uni ne lève lui qu'au compte-gouttes ses restrictions depuis ce matin. Toute personne arrivant au Royaume-Uni de l'étranger devra même observer une quarantaine de 14 jours afin d'éviter l'importation de nouveaux cas de coronavirus dans le pays. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Londres. Alors cette mesure affole tout particulièrement les secteurs aériens et du tourisme, mais plus encore, Antoine, son efficacité est aujourd'hui contestée tant elle semble relever davantage de la décision politique que sanitaire.
Absolument, et en tête de la contestation, effectivement, les dirigeants des compagnies aériennes disent leur colère chez British Airways, qui a saisi la justice pour demander l'annulation de cette quarantaine de 14 jours, et chez Ryanair, dont le PDG interpelle ce matin le gouvernement. Ces nouvelles règles, dit-il, vont causer des dégâts inimaginables pour l'industrie touristique du pays. En fait, la plupart des professionnels du secteur le disent, c'est une mesure coûteuse qui risque de provoquer des milliers de licenciements pour un bénéfice très limité, parce que ce principe d'isolement va en théorie s'appliquer à tous les voyageurs, mais en théorie seulement. Chaque passager arrivant de l'étranger doit remplir un formulaire en donnant une adresse de résidence au Royaume-Uni et en s'engageant à rester isolé pendant 2 semaines. Problème, cette interdiction peut être contournée en passant par la République d'Irlande. Et difficulté supplémentaire, les services d'immigration viennent à peine de recevoir leurs consignes. La responsable du syndicat des douaniers et du personnel aux frontières parle de mise en place chaotique. Certains services, dit-elle, ne savent toujours pas ce qu'ils sont censés faire. Il n'y a rien de prévu, notamment pour vérifier les adresses que donnent les passagers. En face, le gouvernement se défend. Le porte-parole tente de justifier une mesure, dit-il, proportionnée. Et il rappelle que ce système de mise en quarantaine des voyageurs sera revu et réévalué dans 3 semaines.
Merci Antoine Gignot, en direct de Londres. Preuve s'il fallait encore s'en convaincre que la crise liée au coronavirus n'aura jamais mis un terme à l'exode des migrants dont un grand nombre proviennent de Libye, pays toujours en proie aux violences. L'île de Malte a fini par autoriser ce week-end le débarquement de plus de 400 déracinés bloqués en mer, pour certains depuis plusieurs semaines. Jusque-là, les autorités se refusaient à les accueillir, mettant notamment en avant les risques de contamination au Covid-19, avant d'exiger que d'autres pays européens les prennent en charge, ce qu'avait d'ailleurs plaidé la Commission européenne, appelant les États membres à la solidarité et à la responsabilité collective, en vain. Et c'est ainsi que le gouvernement, pour ne pas mettre en danger les vies de ces migrants comme celles des équipages, a donc pris la décision de les accueillir. Les précisions de Marie-Pierre Véraud.
Ils étaient parqués sur des navires de tourisme, certains depuis le 30 avril. Seule la Croix-Rouge avait pu monter à bord. Les associations, le Haut Commissariat aux réfugiés s'inquiétaient pour l'état de santé de ces centaines de migrants. Certains témoignages faisant état de grèves de la faim, de tentatives de suicide. La Valette a donc finalement permis leur débarquement tout en dénonçant les autres pays européens qui, malgré leur grand discours sur la solidarité, ont refusé toute aide et tout accueil. Malte, le plus petit État de l'Union, qui depuis une quinzaine d'années maintenant voit affluer les embarcations venues de Libye, les migrants irréguliers, affirme le gouvernement, représenteraient 1% de la population totale. Et depuis 2005, seuls 8% de ces candidats à une vie meilleure, 1700 sur 22 000 ont pu être relocalisés vers d'autres pays de l'Union. Malte, qui tout comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce et Chypre, les autres États en première ligne, a écrit à Bruxelles pour que ces quotas de migrants à répartir soient enfin mis en place. Mais devant le silence assourdissant des autres pays européens, Malte a signé un accord avec le gouvernement d'Union nationale libyen alors que débute la saison la plus favorable aux traversées de la Méditerranée. L'objectif est de renforcer la lutte contre l'immigration illégale, de créer des centres de coordination à Tripoli et à La Valette, qui seront opérationnels dès le mois prochain, et d'augmenter les financements de nouveaux bateaux pour intercepter et renvoyer les embarcations de migrants.
La Grèce a prolongé de 2 semaines le confinement imposé depuis le 21 mars aux camps de migrants surpeuplés pour juguler la propagation du coronavirus. De leur côté, les organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent de voir les droits des exilés entravés par les restrictions imposées pour lutter contre l'épidémie. Enfin, précisons que cette annonce intervient juste après le lancement d'une campagne de promotion pour attirer les touristes essentiels à l'économie du pays. En France, l'épidémie est désormais contrôlée selon les autorités sanitaires. Hier, 13 morts ont été recensés dans les hôpitaux, soit le bilan le plus faible depuis la mi-mars. Dit autrement, le virus recule de façon certaine, même s'il circule toujours. Et c'est ainsi notamment que de plus en plus de voix s'élèvent désormais au sein du gouvernement pour relâcher un peu la pression, en particulier dans les écoles. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, comme la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, ont fait plusieurs déclarations en ce sens ces derniers jours. C'est également ce que souhaiterait un certain nombre de parents dont les employeurs exigent de plus en plus une présence physique au travail. Quant aux professionnels directement concernés, Hakim Kasmi, là, leur avis semble nettement plus partagé.
Un assouplissement, oui, mais sous conditions, prévient Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique. Pour lui, il s'agit surtout de privilégier les activités périscolaires comme le sport, la cour de récréation ou encore la cantine. C'est pourquoi, prévient déjà Rodrigo Arenas, le président de la FCPE, il ne faut pas s'attendre à avoir plus d'élèves dans les classes d'ici la fin de l'année, surtout à la rentrée.
La réalité, c'est que dans l'élémentaire, sur 10 élèves, il n'y en a que 7 qui sont encore chez les parents et 3 qui peuvent retourner à l'école en raison des gestes barrières. Les gestes barrières, eux, ne sont pas annulés. Et la principale difficulté, c'est pas seulement les jeux dans la cour et les sports de contact, c'est que les gestes barrières qui, à notre connaissance, ne sont pas assouplis, ne permettent pas d'avoir davantage d'élèves dans la classe au moment où nous parlons. Peut-être 2 ou 3 de plus, mais 2 ou 3 de plus, ça fait pas une classe entière. Donc la majorité des élèves resteront en dehors des établissements.
Du côté du ministère de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer n'a jamais caché qu'il était pour le fait qu'il y ait plus d'élèves dans les classes d'ici la fin de l'année scolaire. Pour autant, il ne veut pas se prononcer aujourd'hui. Il faut dire que pendant la crise du corona, il a souvent été rappelé alors par Matignon, ce dernier prenant des décisions hâtives, allant à l'encontre de ce qu'avait décidé Édouard Philippe en termes de reprise dans les écoles.
Le scandale avait porté un rude coup à l'image du sport et plus particulièrement au cacique de l'athlétisme mondial, Lamine Diack, comparé depuis ce matin au tribunal de Paris afin d'y être jugé pour corruption, abus de confiance et blanchiment en bande organisée. Le parquet national financier l'accuse d'avoir obtenu près de 3,5 millions d'euros auprès de sportifs soupçonnés de dopage afin de leur permettre de continuer à participer aux compétitions. Devenu le symbole de cet affairisme qui aura gangréné la fédération internationale, Lamine Diack nie toutes les accusations à son encontre. Il risque une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans. Comme je vous l'annonçais en tout début de ce journal, invité de la rédaction aujourd'hui à l'occasion de la publication de son rapport d'activité 2019, Jacques Toubon, défenseur des droits. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Antoine Marette. Une première question toutefois, monsieur Toubon. Nous évoquions tout à l'heure l'annonce spectaculaire de la hausse des saisines de l'IGPN en 2019. Il se trouve que toute l'année dernière déjà, vous étiez prononcé à plusieurs reprises sur certaines pratiques illégales de la part des forces de sécurité. On imagine que vous n'êtes donc malheureusement pas surpris par ce rapport, d'autant que vous avez vous-même, en tant que défenseur des droits, été, je crois, particulièrement sollicité.
Le défenseur des droits, parmi ses compétences, a le contrôle de la déontologie des forces de sécurité, policiers, gendarmes, policiers municipaux, vigiles, etc. C'est inscrit dans le code de sécurité intérieure. Et qu'est-ce que c'est la déontologie? C'est les règles du comportement professionnel, par exemple la nécessité et la proportionnalité de toute intervention, l'usage proportionné de la force. Et naturellement, cette déontologie pour la police ou la gendarmerie est particulièrement prégnante dans la mesure où ce sont des forces qui, de par la loi, de par notre contrat social, sont en charge de faire respecter la loi lorsqu'elle ne l'est pas, et ils disposent pour ça de la violence légitime. Donc leur comportement doit être particulièrement exemplaire, et c'est de cela qu'il s'agit. Nous avons aussi bien, pour le maintien de l'ordre, fait un rapport au début de 2018, qui était d'ailleurs prémonitoire, parce que nous avions proposé un certain nombre de choses pour l'amélioration des méthodes de maintien de l'ordre, qui s'est révélé tout à fait utile lorsque sont arrivées les manifestations des Gilets jaunes. Nous avons travaillé sur les armes de force intermédiaires. Nous avons des milliers et des milliers de cas qui nous sont soumis. Souvent, ce sont des choses qui sont de la vie courante, très importantes mais pas spectaculaires, comme par exemple des refus de plaintes dans des commissariats, mais souvent aussi ce sont des affaires comme celles dont on parle aujourd'hui. J'ajoute que nous avons fait aussi un travail de fond pour essayer de voir quelle était, d'objectiver la réalité sociale, et comme vous le savez, dans une enquête en 2016, nous avions déterminé, une enquête sur 5000 personnes, que un jeune de 25 ans considéré comme noir ou maghrébin avait 20% de probabilité, 20 fois plus de probabilité d'être contrôlé par un contrôle d'identité que toute autre personne. On voit bien que il y a à la fois le respect d'un certain nombre de principes juridiques, nous le faisons avec naturellement la justice, et puis il y a de notre côté un état social qui mérite d'être amélioré. C'est pour ça que nous avons fait des propositions, comme par exemple, il faut garder une trace des contrôles d'identité, il ne faut pas que ce soit ni vu ni connu, et il faut pouvoir les contrôler sur la base du code de procédure pénale et de la jurisprudence que la Cour de cassation a déterminée en 2016 sur les contrôles discriminatoires.
Question d'Antoine Marie.
Jacques Toubon, en 2019, 1957 réclamations concernant les forces de l'ordre et aucune poursuite disciplinaire.
Et effectivement, nous avons devant nous un ministère de l'Intérieur qui renâcle complètement à suivre nos recommandations lorsque nous proposons des sanctions disciplinaires pour des personnes qui ont manqué de discernement, qui ont commis des discriminations, même des violences. Je pense que la vraie question, c'est que l'intérêt conjoint, l'intérêt commun de la police et de la population, c'est que la police agisse de manière exact par rapport au droit, par rapport au principe, et que d'autre part la population ait, justement vis-à-vis de la police, un sentiment de confiance. C'est de nature à faciliter le travail, qui n'est pas facile, de la police et de la gendarmerie, c'est de nature naturellement à préserver les droits, les libertés et la dignité des personnes, car dans beaucoup d'affaires, il s'agit, on parle de racines, on parle d'autre chose, il s'agit simplement du fait que certaines personnes ne sont pas traitées comme des personnes humaines également dignes. Et je pense que il en est, bien entendu, comme je l'ai dit au début, de la police et de la gendarmerie, encore plus de toute autre personne, mais le comportement des forces de sécurité doit être exemplaire, mais il doit être simplement conforme aux principes, et tous les textes existent, de notre Constitution jusqu'au Code de sécurité intérieure. Je suis un des outils pour essayer de les faire respecter, et je crois que c'est de l'intérêt commun.
Jacques Toubon, c'est votre dernier bilan en tant que défenseur des droits, puisque vous quittez ce poste cet été après 6 ans. Si on devait retenir une action que vous avez menée, laquelle vous auriez envie que l'on retienne ?
Je pense que tout ce que j'ai fait pour faire en sorte que les services publics retrouvent un autre chemin que celui qui a été pris depuis 20 ou 25 ans, c'est-à-dire le recul géographique, la dématérialisation à la place des personnes ou du téléphone, autrement dit, remettre de l'humain dans le service public, retrouver la présence des services publics, me paraît répondre le mieux, naturellement, à la volonté des Français. On l'a vu avec les Gilets jaunes, on l'a vu avec le service de santé aujourd'hui, naturellement, dans la tragique pandémie. Je pense que c'est de manière générale. Et il y a notamment un domaine dans lequel l'action des services publics est particulièrement indispensable, c'est celle des enfants, qui font partie des personnes les plus vulnérables. Et c'est pour ça que aujourd'hui, pour la réouverture des écoles, comme depuis des années et des années, je me suis battu pour un égal accès des enfants à la cantine scolaire. Ça n'a l'air de rien, mais la cantine, c'est l'accès à la cantine, c'est un des éléments essentiels du droit à l'éducation. C'est aussi, pour beaucoup de familles et pour beaucoup d'enfants, le seul repas complet qu'ils prennent chaque jour. C'est un travail qui, c'est une mission, comme vous le voyez, en ce qui concerne le défenseur, qui, par l'outil du droit, cherche tout simplement à faire que la République soit ce qu'elle doit être, c'est-à-dire égale pour tous ses enfants.
Vous êtes devenu il y a 6 ans défenseur des droits après un parcours politique assez riche, parcours pendant lequel vous avez défendu des positions plutôt conservatrices, vous avez été contre l'abolition de la peine de mort, contre la dépénalisation de l'homosexualité, contre le PACS, et désormais vous défendez les droits des enfants nés de GPA. Quelle est la cohérence dans ce parcours?
En quelques
premièrement,
mots,
j'ai été pour l'abolition de la peine de mort. J'ai voté l'article 1er de la loi Badinter qui abolissait la peine de mort. Je n'ai pas voté le reste, parce que M. Badinter avait décidé de ne pas refaire d'échelle des peines et qu'il n'y avait donc plus de peine supérieure dans le code pénal français. Elle n'a été rétablie qu'en 1993. Bon, donc, c'était clair. Ça, c'est simplement pour dire que j'ai toujours été abolitionniste et je l'ai montré en 1981 comme...
Vous avez rejeté son projet.
Pour ce qui est de mes positions, vous savez, je pense que on est, contrairement à ce qu'on pense, ni schizophrène, ni opportuniste. On se trouve simplement dans des circonstances différentes. J'ai travaillé comme fonctionnaire dans une hiérarchie, j'ai travaillé comme parlementaire dans une discipline de groupe, j'ai travaillé au sein d'un gouvernement avec la solidarité gouvernementale, j'ai travaillé comme défenseur des droits, libre et indépendant. J'ai dit ce que devait dire le droit, voilà. Je pense que chaque fois, j'ai fait ce que, non seulement ma position exigeait, mais ce que ma conscience me commandait.
Et on terminera par ces mots. Merci Jacques Toubon, défenseur des droits, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Antoine Maret ainsi qu'à Alexandra Bergel pour les moyens techniques. Un mot rapide du temps pour aujourd'hui. Relativement clément sur un quart sud-est. Partout ailleurs, le ciel alternera entre nuages et éclaircies. Les températures afficheront cet après-midi entre 17 et 22 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nathalie Lopez. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.